voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Bien, comment lutter contre la malnutrition chronique? Vous savez, la malnutrition chronique touche plusieurs enfants en République démocratique du Congo. La prévalence nationale est de 43% et des 53% au Sud Kivu, d'après l'enquête démographique et des santé 2013-2014. Alors, quelles sont les causes de la malnutrition chronique et comment lutter efficacement contre cela? Et surtout qu'en 2016, il y a plus de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition chronique. Alors, pour en savoir plus, pour en parler aujourd'hui, nous recevons Inès Lesama, chef de l'unité nutrition à l'UNICEF. Encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, quelles sont les causes de la malnutrition chronique en RDC?
Oui, comme vous l'avez bien dit, en fait, la problématique, pour donner un aperçu plus global, elle est nationale, puisqu'on a des prévalences assez importantes. Presque la moitié de la population des enfants de moins de 5 ans souffre de cette fléau. Et il y a au moins 3 provinces sur les 6, sur les 11, hein, c'est une province.
Qui sont les plus touchées?
Qui sont les plus touchées, qui ont des prévalences de 50%, d'au-delà de 50%.
C'est la lesquelles?
En concrète, c'est vous avez parlé du Sud Kivu, il y a le Nord Kivu et les Kasaï occidentales. Donc, c'est des zones dans lesquelles il y a une situation d'urgence, si on peut dire, dans laquelle il faut agir vite. Hein, parce qu'un enfant sur deux souffre de ce type de malnutrition, qui a des conséquences qu'on va voir tout à l'heure, qui sont irréversibles. À la suite, on a des provinces qui ont des prévalences plus de 40% qui sont aussi très alarmantes. Donc il y a autour de
5 provinces.
Donc on a le Bas-Congo, la province orientale, le Maniema, le Katanga et le Kasaï oriental, dans lesquels la problématique est aussi très accrue. Donc effectivement, on a un peu lancé le débat parce qu'il y a eu cette conférence nutrition au Sud Kivu, mais la problématique est très large et englobe tous les pays, comme vous l'avez bien dit. Maintenant, c'est pourquoi il y a cette problématique au Congo.
Voilà, quelles sont les causes de la malnutrition chronique?
Surtout que c'est une situation qui est récurrente au fil des années, hein. C'est pas nouveau, hein. Je pense que les gens les connaissent. On sait que parmi les causes classiques, on peut dire, de la malnutrition chronique, c'est chez les enfants, c'est qu'il y a un apport alimentaire inadéquat. Ça veut dire que les enfants n'ont pas une nourriture, une alimentation appropriée ni adéquate en fonction de leur âge et de leurs besoins. Et ensuite, il y a la récurrence de certaines maladies, maladies de l'enfant, qui sont très pressantes de manière répétée au niveau de l'enfant. Donc ça, c'est les causes directes.
Quel type de maladie, par exemple?
Bon, nous avons les maladies comme le paludisme, on a les infections respiratoires aiguës, on a aussi la diarrhée, qui ont un impact au niveau de l'état nutritionnel de l'enfant. Un, puisque au niveau de l'absorption de nutriments, elle est réduite. Les enfants y perdent l'appétit souvent, donc ils ne mangent pas autant. Et les enfants déjà qui ont une malnutrition, quand ils souffrent de ce type de maladie, ils ont plus de risques de décès, justement, que les enfants non malnutris. Par l'apport alimentaire inadéquat, on entend souvent, on pense que bon, il suffit de manger beaucoup de calories, on pense que ça suffit. Si on atteint un niveau de 2000 calories en adulte, ça suffit. Mais pour nous, c'est beaucoup plus en termes de qualité de l'alimentation, la diversification, et que l'enfant puisse avoir tous les nutriments qu'il faut. Les sels minéraux, les vitamines nécessaires en fonction de l'âge, puisque ce sont ces éléments qui vont aider le développement de l'enfant.
Voilà, donc on retient que parmi les causes, vous avez parlé de l'apport alimentaire inadéquat et certaines maladies telles que la diarrhée, le palu, qui empêchent aux enfants de manger correctement. Il suffit pas de manger une grande quantité de nourriture, mais plutôt il faut voir quelle est la qualité des aliments que les enfants prennent. Alors, quelles sont les conséquences que cela entraîne quand les enfants ne mangent pas bien et ils sont touchés par ces maladies que vous avez citées? Quelles sont les conséquences?
Oui, les conséquences sont au niveau individuel d'abord. Ça veut dire que ces enfants qui sont mal nourris, ils ont d'abord plus de risques de décès. Il y a 45% des décès sont dus d'une manière directe ou indirecte à la malnutrition. On a aussi des problèmes en termes de développement cognitif et d'apprentissage de ces enfants, puisqu'il y a eu des évidences ailleurs que certains enfants ont des problématiques pour suivre à l'école. Ces enfants qui ont été malnutris, qui sont malnutris à jeune âge, quand ils sont l'âge d'aller à l'école, ils ont des problèmes d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que la nutrition joue un rôle important aussi en termes de développement, pas seulement physique, mais aussi intellectuel. Et il y a des évidences qui montrent comment le développement du cerveau change complètement chez un enfant normal, un enfant sain, un enfant malnutri. C'est-à-dire que le cerveau, les cellules...
Les cerveaux, les cellules ne sont pas développées comme il fallait.
Elles sont beaucoup plus atrophiées. Donc les connexions, le fonctionnement du cerveau, il fonctionne en fonction des connexions des neurones. Et ces connexions sont pas normales, puisque les neurones sont atrophiés. Et ça, c'est une conséquence un peu irréversible. Bien entendu, ça peut changer avec le temps, mais c'est ça qui fait que les enfants n'ont pas, ils se développent pas de manière intellectuelle et ils vont pas jamais atteindre leur potentiel. Donc, quand ils vont aller à l'école, ils vont avoir
du mal à assimiler les sons en classe.
Oui, ils ont du mal à assimiler. Ils peuvent même perdre entre 2 et 3 ans. Scolaire, parce qu'ils répètent. Bon, et puis ça peut contribuer aussi à l'abandon de l'école, parce que les parents, ils voient que son enfant n'évolue pas, ils vont dire pourquoi il va aller à l'école, c'est pas la peine. Donc ça, c'est au niveau de l'individu. Et quand ces enfants, ils seront adultes, en termes de productivité économique et des gains individuels, ce sera moindre. Il y a des études qui prouvent qu'il peut y avoir jusqu'à 22% de gains de moins à l'âge adulte. Ça veut dire qu'ils vont jamais gagner suffisamment pour les besoins de leur famille, quoi. Ils vont continuer dans les cycles de pauvreté pour ceux qui sont déjà pauvres. Et en termes d'impact des conséquences sociales et économiques, c'est énorme parce que c'est la productivité de toutes des générations complètes. On parle de 6 millions d'enfants qui sont atteints cette année.
Si on compte beaucoup plus dans les suites qui vont.
Oui. Si on compte le cumul de tous ces enfants depuis 15 ans, que la problématique est très persistante au niveau de la RDC, on constate qu'il y a des générations entières qui n'ont pas pu se développer comme il faut. Donc c'est pas un problème justement d'état de santé, c'est un problème de développement et de capital humain. On est en train de perdre beaucoup d'intelligence, si on peut dire, de capital humain et de productivité. Il y a des estimations aussi qui prouvent qu'on peut perdre jusqu'à... il peut y avoir une diminution de produit intérieur brut d'entre 3 et 8% annuel. Justement parce qu'il y a toutes ces problématiques de malnutrition.
Alors, quand vous parlez des séquelles irréversibles, donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire pour cet enfant dont les cellules du cerveau ne sont pas bien développées.
Tout à fait. C'est pour ça que nous, on dit c'est pas un type de malnutrition qu'on peut la guérir. C'est un type de malnutrition qui a des séquelles qui vont rester pendant longtemps. Donc, il faut venir en amont et il faut la prévenir. Et justement, on trouve que la fenêtre de mi-jour, ça veut dire dès que la maman elle tombe enceinte jusqu'à l'âge de 24 mois de l'enfant, c'est ça le mi-jour, 9 mois de grossesse plus 2 ans de l'enfant, c'est la fenêtre d'opportunité dans laquelle il faut agir, il faut faire toutes les actions pour prévenir cette type de malnutrition, parce qu'elle se développe justement dans cette période et au-delà de cette période jusqu'à 5 ans.
Voilà. Nous parlons de la malnutrition, la lutte contre la malnutrition chronique en RDC avec Inès Lizaman, chef de l'unité nutrition à l'UNICEF. Vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Radio Capi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiocapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiocapi.net. Allez-y, on vous attend.
Malnutrition chronique, comment lutter contre la malnutrition chronique? Gentil Oumanou nous appelle des Kananga et Shukrani Ouma des Kindou. Gentil, on commence avec vous, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité du jour et tous les auditeurs qui sont en ce moment.
Quelle est votre question? Quelle est votre question, Gentil? Quelle est la question?
Oui, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Si j'ai bien suivi notre invité, il a ciblé quelques provinces qui sont aussi touchées concernant la malnutrition. Il a ciblé la province du Kasaï occidental, dans ce temps-là qui est Kasaï occidental de Nombre. Maintenant, je voulais demander à notre invité, la malnutrition. Parce que chez nous ici, dans la province du Kasaï central, on voit un nombre fréquenté quand même qui sont touchés par la malnutrition. Donc je voulais demander à notre invité, la malnutrition est une maladie? Si c'est une maladie, quels sont les agents causants de la malnutrition? Ça c'était la première question qui a des sous-questions. La deuxième, la pauvreté des parents peut être aussi à la base de malnutrition. Si la pauvreté des parents peut aussi être à la base de la malnutrition, alors l'État congolais peut faire quoi pour réduire cette épidémie de malnutrition? Merci, c'est gentil, mon décan dans une nouvelle vision.
Shukran Yuma de Kindu, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour. Et bonjour aussi à notre invité. Juste demander la question. J'aimerais juste savoir, cette maladie-là est toujours souvent touchée aux enfants de quel âge? Et puis, la deuxième question que je voulais aussi demander, est-ce que la malnutrition est liée aussi à l'insuffisance alimentaire comme quelqu'un qui mange peu, ou soit ça peut dire encore quelqu'un aussi qui mange beaucoup, est-ce que c'est là aussi est mal nutri? C'est ça ma question. Je vous remercie. Shukran et Yuma Kindu Manima.
Joseph Pungu de Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les amis du monde.
Quelle est votre question, Joseph?
J'ai une préoccupation à demander à madame l'invité. Quelle nourriture qu'on peut donner à un enfant pour éviter un peu la malnutrition? Parce que nous sommes ici au village. Nous avons un enfant de ma petite soeur. Cet enfant ne veut pas manger même du sombé. Et lorsqu'il mange du sombé de 3 jours, vous verrez que les joues commencent à se gonfler et les cheveux commencent à changer un peu de couleur. On ne sait pas maintenant quelle nourriture qu'on peut donner parce que lui veut toujours manger de la viande. Alors nous n'avons pas de moyens à avoir toujours chaque jour de la viande. C'est pour cette raison que je profite de l'occasion d'avoir un peu de conseils compte tenu de cette émission. Je voulais demander à notre
merci.
Invité
merci,
de nous donner quelques
d'accord.
conseils. Mmh. Et nourriture à donner à notre enfant pour qu'il change un peu la couleur. Parce qu'on voit que
d'accord,
la couleur
merci. Merci beaucoup. Alors, revenons à la question des gentils. Il veut savoir si la malnutrition chronique est une maladie. Quelles sont les causes? Vous avez déjà parlé des causes. Et il dit, est-ce que la pauvreté des parents est aussi à la base de la malnutrition?
Tout à fait. Merci aux auditeurs pour les questions. Justement, la malnutrition chronique ou retard de croissance, qui s'appelle aussi, c'est une maladie. Ça veut dire, ça se manifeste comme une maladie. Et les causes, j'en ai cité que deux, les causes directes, mais il y a d'autres causes sous-jacentes et structurelles. Donc, la pauvreté, c'est une cause structurelle. Et justement, c'est à la base, les ménages les plus pauvres n'ont pas accès à services de santé, n'ont pas accès à une alimentation adéquate. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles toutes les politiques de lutte contre la malnutrition doivent être multisectorielles et être plus holistiques, prendre en compte justement la pauvreté, le besoin de eau, hygiène, assainissement, le besoin en agriculture pour justement avoir des interventions qui peuvent cibler le problème et qui peuvent avoir un meilleur impact. Mmh. C'est là où il y a aussi la difficulté dans la lutte contre la malnutrition chronique. Ce n'est pas on te donne un médicament, on te guérit. Il y a toute une série d'interventions.
Un retard de croissance.
Voilà, un retard de croissance. C'est une toute série d'interventions qu'il faut mener dans différents secteurs pour que justement le ménage puisse être en mesure d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à l'eau, de pouvoir donner à manger à l'enfant ce qu'il faut.
Et il y a un auditeur qui a parlé de quelle est la tranche d'âge la plus touchée par la malnutrition chronique?
Voilà, bon, la malnutrition chronique, elle se développe de peu en peu. Donc, on voit que le pic en RDC, il vient un peu plus tard, à partir de 23 mois jusqu'à 5 ans. C'est là où il y a plus de malnutrition chronique. Mais il faut dire que les actions doivent venir beaucoup plus tôt. Il ne faut pas penser que c'est à cet âge qu'il faut agir. Il faut agir déjà dès la naissance de l'enfant ou bien avant. Il y a d'autres types de malnutrition qui se développe beaucoup plus tôt, donc la malnutrition aiguë, qui se développe déjà à partir de 12-18 mois, et Ça coïncide normalement quand la maman tombe enceinte et a un deuxième enfant. Et le premier enfant n'a pas le même accès à la nourriture.
Mmh. Voilà. Et puis, Choukrani veut savoir, est-ce que le fait de manger peu ou de manger beaucoup signifie que la personne souffre de la malnutrition chronique?
Malnutrition, quand on dit le terme malnutrition, ça veut dire mal nourri. Donc ça veut dire par déficience ou par suralimentation. Donc là, on peut voir qu'il y a différents types. Il y a la malnutrition chronique, il y a la malnutrition aiguë, il y a tout type de problématiques, des déficiences micronutriments, donc notamment l'anémie ou le problème de vitamine A. Mais on peut avoir aussi l'obésité et le surpoids. C'est un type de malnutrition. Ça veut dire qu'on a consommé plus, donc on en avait besoin. Et ça, c'est aussi un type de malnutrition. Mais j'insiste sur les messages. Oui, on en mange peu, mais c'est la qualité de ce qu'on en mange, la diversification. On mange différents types d'aliments qui fait la différence. C'est pas la quantité qui est important.
Et Joseph nous dit que la chevelure de son enfant change de couleur. Il veut pas manger les feuilles de manioc. Il veut manger tout simplement la viande. Alors, il vous demande quel conseil vous pouvez lui donner pour aider son enfant à ne pas tomber dans la malnutrition chronique.
Bon, voilà. Je ne connais pas l'âge non plus de l'enfant. Donc, c'est assez important de savoir. C'est pas la même chose un enfant qui a 6 mois ou bien un enfant qui a 12 ou qui a 18 mois. Les conseils sont bien différents. Mais je suis conscient aussi qu'on a la difficulté de donner des protéines animales aux enfants, mais il est quand même important qu'elles ne mangent qu'un aliment. L'alimentation à base de manioc ou de feuilles de manioc n'est pas suffisante. Ça veut dire que ces enfants, ils en ont besoin de manger un peu de viande, de manger un peu de légumineuses, de manger une alimentation assez variée. Mmh. Donc, de faire des efforts au niveau du ménage pour pouvoir les fournir tout ce qu'il faut à l'enfant.
Et comment détecter les signes pour détecter un enfant malnutri? Parce qu'il parle des cheveux qui changent de couleur.
Oui, bon, ça dépend du type de malnutrition. Quand on parle de malnutrition aiguë, c'est les enfants émaciés ou les enfants un peu chétifs. On voit qu'ils ont une perte de l'appétit et parfois ils sont très minces. Ils peuvent avoir le ventre vallonné, ils peuvent avoir le changement de couleur des cheveux. Ça montre un type de malnutrition, ok. Et ils peuvent avoir des œdèmes, le membre des jambes ou des bras ou bien même les joues qui gonflent. Ça, c'est un peu le début de quoi sur corps. Mais la malnutrition chronique, elle n'est pas visible. C'est tout juste un enfant beaucoup plus court par rapport à son âge. Enfin, si on le compare avec les enfants de la classe ou les enfants dans un même environnement ou communauté, c'est des enfants tout courts qui n'arrivent pas à grandir et qui ont une croissance un peu arrêtée. C'est ces enfants qui sont malnutris chroniques. Mais on peut ne pas voir d'autres signes externes.
Dieu merci, à Saint-Jean, nous appelle de Kisangani, Ignace Ndala, Itakolizi. Dieu merci, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour à la radio Capi, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs. La malnutrition, comme on a dit, l'invité, c'est un problème de santé publique. On mange pour se construire, pour se protéger et nous fournir les énergies nécessaires dans le corps. Alors, je voulais poser la question à l'invité parce que quelqu'un a parlé du travail, mais moi je pense que le problème des malnutrition, c'est l'ignorance des parents parce que nous avons eu à mener une étude, nous sommes rendus compte que il y a même des enfants des hautes classes qui ont beaucoup les moyens mais présentent des problèmes de malnutrition. Par exemple, les enfants des riches, ils vont à l'école, ils prennent du sucré, ils rentrent, ils prennent du sucré, le soir ils prennent des cabris et ils développent des malnutrition. Il a insisté sur le retard estandio-pondéral des troubles familiaux. Maintenant, je voulais savoir si ils ont aussi un plan stratégique, ils sont en train de travailler avec le structure au niveau de la CPS et la consultation prénatale pour voir comment sont utilisés les mamans qui nous fournissent à manger pour voir comment équilibrer les aliments, c'est-à-dire avoir les aliments de protection, les aliments de construction et les aliments énergétiques. Voilà un peu ma préoccupation.
Bien, merci Ignace Ndala d'Ecolosi. Bonjour, quelle est la question?
Bonjour, je vais aborder pratiquement comme mon ami de tout à l'heure. Je veux simplement dire que nous avons ici un problème de culture. Il y a très peu de gens qui savent pourquoi ils mangent. Nous autres précieux, on mange le citron, on mange l'orange, on mange telle nourriture parce qu'on sait que ça va répondre à telle préoccupation dans le corps. Il y a deux catégories. Il y a des situations où des foyers sont en carence, il n'y a pas à manger. Mais il y a des foyers, comme l'a dit mon professeur, où il y a à manger, mais on ne sait pas exactement comment préparer. Pas seulement pour des cas de consultation prénatale, mais dans tous les foyers, il y a un problème de savoir faire la cuisine, savoir préparer la sauce que l'on doit prendre. Aujourd'hui, on connaît le problème sur le marché de beaucoup d'épices. On en fait un peu trop, on mélange de n'importe quoi. Alors, je voudrais faire un plaidoyer, demander à notre invité, est-ce qu'il y a moyen qu'elle puisse peser de tout son bois pour qu'il y ait des structures d'encadrement des femmes, surtout dans des quartiers ou des provinces qui sont beaucoup plus concernées, apprendre à la maman congolaise comment faire la cuisine malgré le peu de moyens que l'on a. On peut toujours le faire. Voilà ma préoccupation.
Merci. Jean des Dieux Kafuka, des Kikuit, quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour. Bonjour à notre invité, à tous ceux qui sont présentement branchés à la Radio Capi. J'ai un témoignage et des préoccupations. Là où je vis, je suis parti dans une localité, là où, dans une localité tout près de la rivière Kwenge. J'avais vu un foyer où, à laquelle j'avais remarqué deux familles où les enfants mangeaient normalement, parce que là, ils produisent le maïs, le manioc, il y a aussi le durée. Mais on trouve que de plus en plus, il y a que les enfants qui ne se développent pas comme il faut. Leur santé vraiment ne répondait pas. Alors, ces familles-là, ils ont amené les enfants à l'église pour dire, les enfants ici mangent très bien, mais nous trouvons que leur chevet fait que chuter et ils ne se développent pas. Un enfant déjà de 3 ans, il ne s'adapte même pas à l'école. Alors, nous allons amener ces enfants à l'église pour qu'on prie pour eux. Il s'agit des problèmes de la sorcellerie. C'est ce que je voulais demander, les conseils à notre invité, de ce qu'il pouvait quand même donner les conseils par rapport à d'autres ménages congolais.
D'accord. Merci beaucoup. Merci, Jean-Didier. Merci beaucoup. Alors, nous revenons à notre invité. Vous avez suivi ses différentes préoccupations. Joseph a demandé quel type de nourriture donner à l'enfant. Vous avez déjà répondu à ça. Dieu merci. De Kisangani dit il faut donner à l'enfant des aliments, des protections, qui permettent des constructions et qui apportent l'énergie. Est-ce qu'il y a moyen de travailler avec les consultations, les hôpitaux, les centres de santé lors des consultations prénatales pour éduquer les femmes, n'est-ce pas, sur la manière dont elles doivent préparer les aliments, équilibrer les aliments à donner à leurs enfants?
Tout à fait, je suis complètement d'accord avec l'auditeur. En fait, le manque de connaissances des parties des parents aussi sur ce qu'il faut donner et quand donner, ça fait partie des causes aussi et des problèmes de malnutrition. Donc, toutes les stratégies, et notamment dans le plan stratégique, plan national qui va être adopté, c'est prévu, comme il a bien dit, que lors des consultations préscolaires, ils puissent avoir des sessions de sensibilisation aux mamans sur comment nourrir leurs enfants à partir de la naissance jusqu'à 2 ans et même au-delà. Donc c'est quelque chose qui est prévu et qui est fait dans différentes zones du pays. Malheureusement, la couverture de ces services sont encore très limitées et c'est des actions que devaient mener toutes les partenaires dans la nutrition, justement avec le gouvernement, pour voir comment toutes les mamans puissent avoir accès justement à ces consultations pour avoir les bons conseils et changer un peu ces habitudes, ces cultures. Donc les auditeurs parlaient de manque de connaissances, insuffisantes connaissances sur comment faire le préparer à manger de manière adéquate pour les enfants.
Alors, qu'est-ce qui a été décidé, par exemple, lors de la conférence sur le repositionnement de la nutrition qui s'est tenue dernièrement à Bukavu?
Oui, lors de cette conférence, il y a eu de très forts débats sur les différents secteurs et les rôles de chaque secteur dans la lutte contre la malnutrition. Et justement, pour combler le gap de besoins, en fait, de connaissances des parents. Il y a un auditeur aussi qui parlait de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la communauté pour ces foyers, comment on peut les encadrer, comment encadrer les femmes. Tout ça, ça a été discuté au niveau de la conférence de Sud Kivu, à Bukavu. Et il y a eu des engagements des différentes parties prenantes pour dire avec des approches communautaires qu'on peut mettre sur pied, notamment avec le programme national de nutrition, on en parle, la nutrition assise communautaire, c'est créer une dynamique dans la communauté autour de la nutrition pour aider ces femmes, mais aussi les hommes, à préparer à travers des démonstrations culinaires, à travers des échanges avec eux, quels sont les aliments disponibles et comment on peut le préparer et à quel moment on peut donner l'enfant.
Ignace Ndala-Décolozi a dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre des structures pour encadrer ces femmes, même avec peu de moyens? On peut toujours arriver à faire, à créer l'équilibre alimentaire.
Justement, et c'est ça que nous, on pense que la nutrition assise communautaire est une bonne plateforme, une bonne approche qu'il faut mettre partout dans le pays. Mais c'est une approche qui prend du temps et qui mérite des ressources suffisamment. Enfin, on a besoin de ressources pour et des partenaires pour le mettre en œuvre. La conférence de Sud-Kivu nous a aidé aussi à trouver des engagements des différents partenaires, dont le partenaire technique financier, pour dire on va accompagner le gouvernement. Si le gouvernement a un fort engagement pour lutter contre la malnutrition chronique au niveau de Sud-Kivu, on va l'accompagner à travers la mobilisation des ressources ou les appuis techniques que nous on peut fournir justement pour que le gouvernement puisse mettre sur pied des interventions au niveau de la communauté, pour les femmes, pour les centres de santé et à tous les niveaux justement pour convaincre et changer les habitudes en fait.
Mike Ngalamulume nous appelle de Kolwezi. Arsène est à Bujumbura, au Burundi. Mike, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Mike?
Oui, moi aussi j'ai un cas pareil, hein, de la malnutrition sévère. Alors j'ai des questions à poser, parce qu'il y a d'autres éventualités qui pourront peut-être venir après, hein, par rapport à l'invité. Est-ce que la malnutrition peut avoir des séquelles sur l'état psychique de l'enfant dans son accroissement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voulais savoir si c'est le cas et comment remédier à cela. Parce que j'ai un enfant qui présente le même symptôme, mais je ne sais pas comment me situer à ça, parce que l'enfant, des fois, il n'a pas d'appétit, il ne mange pas normalement, même si on lui donne quand même la nourriture normalement, mais... À un certain moment, vous allez voir, l'enfant, il ne raisonne pas normalement. Donc, c'est-à-dire, il dort profondément, et lorsque vous voulez le réveiller, il vous prend beaucoup de minutes, voire même une heure pour se rétablir. Est-ce que ça peut avoir de l'impact sur l'état psychique de l'enfant? C'est ça, mes deux questions-là.
Merci. Arsène, vous êtes à... Pardon, Arsène, vous êtes à Bujumbura, au Burundi. Bonjour.
Oui, merci. Je demande à l'invité une question de savoir... Bon, nous avons des programmes de nutrition, mais à terme de réalité, pour les terrains, il y a un peu de confusion parce que, bon, nous savons la réalité que ce sont les ONG aujourd'hui avec trois lanceurs, Contina, quatre cartons d'humains, et on va dire qu'on est en train de lutter contre la malnutrition. Est-ce qu'avec quatre cartons, avec quatre lanceurs pour lutter contre la malnutrition à Longo, à Mubumbano, à Kanyamba, à Kalonge, ça sera possible? La deuxième question, pourquoi on ne pouvait pas faire une initiation entre les ministères de l'agriculture pour lutter contre la malnutrition? Parce que bon, nous parlons d'abord en termes de guerre. Quand il y a la guerre, il n'y aura pas l'accès de travailler. Ces mamans-là, ils n'auront pas l'accès de faire les champs. Et quand ils ne font pas les champs, ça sera impératif pour trouver à manger aux enfants. Parce que le thème de l'émission, c'est la lutte contre la malnutrition. Autre chose, pourquoi les programmes de l'hygiène, c'est presque invisible, les programmes de nutrition plutôt, c'est presque invisible sur le terrain. Parce que je me raconte à un certain moment, j'étais même à Nyanzale, on se rend compte que Médecins Sans Frontières fait des traitements aux enfants. Et ce traitement-là, c'est beaucoup par rapport aux préventions, par rapport aux préventions en termes, par exemple, de la nutrition. Ok, je demande d'abord à l'inviter.
D'accord, merci Arsène. Oui, merci beaucoup. Je reviens à vous, Inès Lizama, chef de l'unité de nutrition à l'UNICEF. Quelqu'un a dit tout à l'heure que même dans les familles où les parents ont des moyens, les enfants ne prennent que des boissons sucrées, ne veulent pas manger correctement et après ils vont développer la malnutrition.
Tout à fait. En fait, bon, c'est une problématique aussi dans les pays riches, hein. Dans les familles, donc on a des moyens. Parfois, on a tendance à la facilité et à se dire, bon, on va donner des produits importés, on va donner, parce qu'on a l'accès et on a de l'argent, on veut montrer qu'on est capable d'acheter certains produits. Mmh. Et c'est là où ces enfants, ils peuvent développer des problèmes d'autres types, justement parce qu'ils ne mangent pas bien. En fait, le message à passer, c'est que tout le monde doit manger bien, soit les pauvres, soit les riches, c'est absolument tout le monde, c'est pas les riches qui sont épargnés du problème, ils peuvent avoir le problème contraire.
Tout à fait. Alors Mike de Kolwezi a un enfant qui dort profondément, pour se réveiller c'est un problème, il a un problème de raisonnement, et il veut savoir si ce sont des signes de la malnutrition.
Bon, je pourrais pas dire ça comme ça. Justement, sans voir l'enfant, s'il y avoir un diagnostic, ça, c'est peut-être un médecin qui pouvait le voir. Mmh. Il était préoccupé surtout pour savoir si l'état physique peut être touché, en fait, s'il y a un impact au niveau de l'état physique de l'enfant. Et comme j'ai dit tantôt, ça dépend aussi de la gravité de la malnutrition. Et il y a des séquelles qui peuvent rester. Néanmoins, il y a toujours de l'espoir. Il faut pas penser que tout est noir et qu'il n'y a pas de solutions. Lorsque les enfants se développent à la suite et puis juste avant la période de l'adolescence, il y a des possibilités de récupérer certains retards, qu'on peut dire. Mais c'est qu'il faut avoir en tête comme parent aussi, hein, comme moi je peux l'avoir comme mère, c'est que qu'est possible. Dès la naissance, il faut donner tout ce qu'il faut pour que l'enfant se développe à chaque étape de la meilleure manière. C'est comme ça qu'il va obtenir le maximum potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rattraper et qu'il y a des périodes précises, donc juste avant l'adolescence aussi, on puisse aussi essayer de rattraper et que l'enfant n'ait pas autant de séquelles.
Et Arsène de Bujumbura nous dit qu'il a remarqué au sud Kivu, certaines ONG interviennent, apportent des cartons de lait, mais cela a été insuffisant et le programme national de nutrition n'est pas partout dans les localités touchées par la malnutrition.
Oui, justement, c'est une des problématiques en fait. Toutes les interventions ou les actions qui ont été menées jusqu'à maintenant, ils sont trop focalisés dans les urgences, donc dans la malnutrition aiguë, traiter des enfants parce qu'ils ont un risque très élevé de décès et c'est très important. Mais il y a très peu des actions qui ont été menées pour la prévention de la malnutrition chronique et c'est les messages qu'on veut passer. Il faut venir en amont, il faut prévenir, il faut changer les pratiques familiales, il faut changer la manière de voir les choses. Pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant? C'est plein de questions qu'on pouvait poser même au niveau du gouvernement, mais je pense qu'il n'y a pas, malgré les engagements, il n'y a pas eu une priorité qui a été donnée à la nutrition.
Et les financements, le secteur n'est pas assez financé.
Voilà, le secteur n'est pas assez financé. Il n'y a pas une vision multisectorielle de qu'est-ce qu'il faut faire pour la malnutrition. Un auditeur a parlé aussi du ministère de l'Agriculture, justement, ils ont un rôle à jouer très important. Ce n'est pas la responsabilité du ministère de la Santé, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Éducation, c'est la protection sociale, c'est tous les secteurs ensemble qui doivent faire en sorte que la situation change. Donc, les engagements n'ont pas été suffisants, ils n'ont pas été suivis ni traduits en financement conséquent, en programme conséquent avec une couverture assez importante. Il y a eu des projets qui ont été faits dans différentes zones, mais une couverture très suffisante. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça.
Bien, merci Inès Lesama. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité nutrition à l'UNICEF. Bonne journée et à la prochaine.
Merci à vous et bonne journée.